Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Mathieu Monod, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, premier adjoint au maire de Pantin et premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique ?
J'ai grandi à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Et puis ça peut paraître étonnant quand on voit l'image que parfois renvoie ce territoire de la Seine-Saint-Denis, mais j'ai pris l'ascenseur social en rejoignant la Seine-Saint-Denis. C'est finalement un département où j'ai réussi à m'épanouir et à grandir. J'y suis arrivé au courant de mes études et j'ai fait une rencontre importante puisque j'ai rencontré Claude Barthelone, avec lequel j'ai eu une tranche de vie professionnelle longue de 10 années, qui m'a conduit à la fois au département de la Seine-Saint-Denis et aussi à l'Assemblée nationale. J'avais déjà le moteur de l'engagement, puisque j'ai très jeune adhéré au Parti Socialiste, à peine 17 ans. Mon père était maire adjoint à Gonesse, donc il y a une culture familiale ancrée à gauche, ancrée au Parti Socialiste. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai pris les responsabilités que vous avez évoquées, à la fois dans l'organisation du Parti Socialiste, avant de prendre la responsabilité de premier secrétaire fédéral de la Seine-Saint-Denis. Je me suis occupé de la section de Pantin. Et puis, voilà, chemin faisant, la vie m'a amené à me présenter devant les électeurs de Pantin et du Pré-Saint-Gervais pour ce nouveau mandat que j'occupe depuis juin 2021 au conseil départemental aux côtés de Stéphane Troussel. Donc, je suis en charge au département de deux choses importantes, à la fois la vie associative et la démocratie participative. Et de l'autre côté, je préside Seine-Saint-Denis Habitat, qui est le premier bailleur social du département de la Seine-Saint-Denis.
Voilà. Alors, Mathieu Monod, la situation sociale et politique est très tendue en France, avec un mardi marqué par une grève et une mobilisation interprofessionnelle, des grèves aussi dans les raffineries. Dimanche, vous avez participé à la manifestation organisée par la NUPES contre la vie chère et l'inaction climatique. Sur quoi peut déboucher ce mécontentement, cette colère ? Est-ce que vous espérez qu'Emmanuel Macron va changer de politique ?
Je ne sais pas si Emmanuel Macron va changer ou peut changer de politique. J'ai l'impression que le logiciel idéologique d'Emmanuel Macron est bien affirmé et j'ai assez peu d'espérance de ce point de vue-là. Vous avez raison sur un point, ça fait du bien de voir cette gauche qui se parle, qui, après avoir réussi à négocier un accord électoral dans le cadre des élections législatives, continue à échanger, parfois à se confronter, mais également à produire le meilleur d'elle-même. Et de se retrouver coup de serré dans le cortège de cette manifestation, je peux vous dire, pour y avoir été, que c'était quelque chose d'assez agréable. Ça a été une belle réussite, cette manifestation du 16 octobre. Alors, on entend des voix discordantes à gauche, notamment encore au Parti Socialiste, qui considère que c'était la manifestation plus de Jean-Luc Mélenchon du reste des organisations de gauche. Je ne crois pas. Moi, je pense que c'était une grande manifestation portée par les organisations politiques de gauche avec deux mots d'ordre principaux. La question de la vie chère. Et quand on voit les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos compatriotes, il est indispensable de se mobiliser sur ce sujet de la vie chère. Et quand on voit l'incapacité du gouvernement à entendre et à prendre des mesures sur ces sujets liés au pouvoir d'achat, il y a fort à dire. Et puis la question de l'inaction climatique. La France a été condamnée pour inaction climatique. On attend que le gouvernement se mette au diapason. Et je pense que c'était une bonne chose d'associer quelque part dans le temps de cette manifestation la fin du monde et la fin du mois, et de rappeler également que c'est les catégories les plus populaires qui, sur les questions climatiques, sont les premières à être touchées.
Les habitants de votre département sont-ils particulièrement touchés par l'inflation des prix des produits alimentaires et de l'énergie ?
Mais bien évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, moi, je suis élu de ce département de la Seine-Saint-Denis, mais parfois ça me fatigue qu'on essaye d'opposer les habitants de tel territoire par rapport à tel autre. On habite aujourd'hui dans un département dense, très urbain, comme la Seine-Saint-Denis, ou que vous habitiez au fin fond de la Creuse, les difficultés sont les mêmes. Et je crois que c'est quelque chose qu'exprime Stéphane Troussel, vous l'avez reçu sur votre antenne il y a quelques jours, dans ce bouquin qu'il vient de commettre. Il y a un vrai lien à établir entre les catégories populaires, qu'elles viennent du monde rural, du monde périurbain ou du monde urbain. Il y a cette question de réenchanter les réponses qu'on est capable d'apporter aux catégories populaires et de redéfinir ce qu'est cette classe populaire aujourd'hui qu'on retrouve dans notre pays. Donc oui, les habitants de la Seine-Saint-Denis, mais comme partout tailleurs en France sont confrontés à cette question de l'inflation. On rencontre des difficultés aujourd'hui pour nourrir sa famille. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans les raffineries, faire le plein d'essence ou encore se chauffer. Tout ça devient de plus en plus problématique. C'est des questions de vie quotidienne que rencontrent nos concitoyens. Et puis, il y a des chiffres qui sont parlants sur la question des taux de pauvreté sur notre pays. Vous avez une enquête de l'INSEE qui nous dit en 2021 qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Ça devrait faire réagir celles et ceux qui aujourd'hui ont les responsabilités de ce pays.
Alors justement, vous parliez de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et dimanche après la manifestation, il a écrit « Il est temps de relever la tête et de refuser ce modèle libéral ». Pour vous, la seule façon de revenir au pouvoir, c'est de revenir à vos fondamentaux, à ce qui fait l'ADN de la gauche ?
Oui. Oui, il y a une déception de l'exercice du pouvoir des socialistes entre 2012 et 2017. Et en tant que responsable socialiste sur un territoire qui est celui de la Seine-Saint-Denis, je n'ai aucune difficulté ni à le dire ni à le reconnaître. Tout n'est pas à jeter dans ce que nous avons fait. Fort heureusement, il y a quand même des belles choses qui ont été mises en œuvre pendant ce quinquennat, mais les résultats électoraux du Parti socialiste et l'incapacité qu'a eu François Hollande à pouvoir se représenter en 2017 suffisent à faire démonstration. Donc effectivement, revenons à nos fondamentaux. C'est le travail que nous menons dans le cadre de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, dans laquelle le Parti socialiste a toute sa place. Ça fera partie des enjeux du congrès du Parti socialiste de redéfinir une ligne politique clairement ancrée à gauche. Vous savez, j'ai l'impression que les électeurs, on est passé dans leur tête de l'enfer au purgatoire. On ne voulait plus entendre parler du Parti socialiste. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux nous disent « c'est bien ce que vous faites, continuez parce que vous êtes en train de réancrer le Parti socialiste à gauche ».
Olivier Faure est très apprécié, notamment par les insoumis. Mais est-il apprécié par les électeurs traditionnels du Parti socialiste ?
Mais les électeurs traditionnels du Parti socialiste reconnaissent au Parti socialiste une chose, c'est le discours qui est le sien lorsqu'il s'incarne pour changer la vie. Et c'est quelque chose qu'on a perdu de vue. Enfin, excusez-moi du peu, mais les électeurs du Parti socialiste faisaient confiance à François Mitterrand quand en 71, à la création du Parti socialiste après le congrès d'Épinay, il expliquait qu'il y avait une rupture avec l'ordre établi à incarner. Et qu'était le Parti socialiste ? Il suffit de relire le programme « Changer la vie » de 81. Il faut voir aussi ce qu'a pu porter François Hollande en 2012 dans son discours au Bourget en expliquant que son adversaire était le monde de la finance. Cette question, forme de radicalité dans le propos que peuvent tenir certains dirigeants socialistes, n'est pas incongrue et historiquement a pu faire sa démonstration.
Alors, on parle de François Hollande. Il s'est exprimé très durement contre la direction du PS à laquelle vous appartenez. Je vais le citer. « Quand on a depuis 5 ans la responsabilité d'un parti et qu'on n'est même pas capable de présenter une candidature aux élections européennes, même pas capable d'avoir un programme crédible pour l'élection présidentielle, on se tait et on laisse la place. Est-ce qu'Olivier Faure doit se taire et laisser la place, comme le demande votre ancien candidat à l'élection présidentielle devenu président, François Hollande ?
Vous savez, sur ce sujet-là, je suis assez simple et basique. Quand on n'a pas été capable de pouvoir se représenter à l'élection présidentielle en 2017, on se tait. Quand on a enfanté Emmanuel Macron, on se tait. Quand on a fait des promesses à son électorat pendant notamment ce discours au Bourget et que derrière la politique menée ne correspond pas philosophiquement et idéologiquement parlant à ce qu'on a annoncé au moment de la campagne présidentielle, on se tait. Donc je le dis très tranquillement à François Hollande, on se tait, effectivement on laisse la place et ce qui serait agréable pour le Parti socialiste, c'est surtout de ne plus revenir.
Alors, vous qui êtes président de Seine-Saint-Denis Habitat, Mathieu Monod, c'est donc, vous l'avez dit, le premier bailleur social du département. Est-ce que vous êtes inquiet en ce qui concerne les charges et les factures d'énergie des foyers qui vivent en logement social ou bien est-ce que le bouclier tarifaire va limiter les dégâts ?
Je suis très inquiet. Sur ce que peuvent représenter le poids des charges dans la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment qui vivent dans des logements sociaux. Je vais vous donner quelques exemples chiffrés, notamment à Seine-Saint-Denis Habitat. On a un marché d'électricité qui tombe au 31 décembre 2022. Donc on est en train de relancer ce marché. nous sortions d'un marché à 4,5 millions. Ce que nous dit aujourd'hui les premières remontées qu'on a en termes de prix, ça se chiffre à autour de 27 millions d'euros. Donc,
c'est énorme.
Donc, l'équation est simple. Soit, effectivement, il y a un véritable bouclier tarifaire qui est mis. Et je peux vous dire là aussi très tranquillement, on a sensibilisé Olivier Klein, le ministre en charge du logement, qui comprend et voit bien de quoi nous voulons parler. La difficulté, c'est lorsque nous rentrons dans des discussions un peu plus techniques avec certaines personnes en charge de ces sujets-là, je pense qu'ils n'ont jamais mis les pieds ni dans une résidence sociale, et que la maîtrise de ce qu'est le logement et ce que peut représenter le poids des charges dans la vie quotidienne des habitants n'est pas bien compris. Vous savez, on a fait quelques calculs avec les équipes de Seine-Saint-Denis Habitat pour voir sur une famille quel est son salaire, quel est le poids du loyer, APLisé ou non APLisé, et quel est le poids des charges là-dedans et ce qui lui reste pour vivre. Sur certains cas, de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, qui sont sur certains minima sociaux, le reste à vivre, si je devais appliquer aux charges la multiplication que je viens de vous donner des 4 millions aux 27 millions que représente l'évolution de ce marché, le reste à vivre pour ces habitants deviendrait négatif. Voilà. Ça, c'est la réalité des chiffres. Il y a de véritables inquiétudes. Là, l'équation est simple. C'est soit on met en difficulté ce que peuvent représenter des institutions comme les bailleurs sociaux, parce qu'à un moment donné, la facture, elle devrait être payée, soit on met en difficulté les locataires du parc social. Et pour moi, c'est impensable qu'on puisse faire reposer sur les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées ce type de dépenses. Soit l'État prend ses responsabilités. Effectivement, il y a un bouclier tarifaire qui est mis en œuvre, qui permet de protéger. Mais aujourd'hui, je ne connais pas les mécanismes qui pourraient être déployés. Sur certaines parties du calcul des charges, je ne peux pas vous répondre. Et y compris aujourd'hui, je n'ai pas de réponse donnée par certaines entreprises sur les marchés qui tombent en fin d'année. Donc il y a un vrai sujet politique sur lequel le gouvernement est attendu.
Alors, la mobilisation contre le gouvernement, Mathieu Monod, se fait à travers les partis politiques et les syndicats. Mais on se rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, il y a 4 ans, avait éclaté en dehors de ces cadres. Avez-vous le sentiment qu'Emmanuel Macron a compris qu'il devait s'appuyer sur les corps intermédiaires ?
Écoutez, non. Je veux prendre un exemple. La question des retraites. Il faudrait qu'on s'arrête sur la méthodologie. Moi, j'entends effectivement qu'Emmanuel Macron aurait tiré les leçons du passé, comprendre l'importance des corps intermédiaires pour enclencher le dialogue social. Quelle a été la méthode du gouvernement ? Dans un premier temps, on nous a dit, oulala, on va faire un Conseil national de la refondation, on va pouvoir mettre tous les sujets là-dedans. Bon, très bien, Conseil national de la refondation est créé, premiers échanges ont lieu. Et puis, pour parler de cette question des retraites, par quel petit bout est-ce que le sujet a été mis dans le débat public ? Par le PLFSS, en disant qu'on allait peut-être pouvoir modifier l'âge de départ à la retraite par un amendement. Est-ce que c'est ça le dialogue social ? Est-ce que c'est comme ça que doit fonctionner le dialogue social ?
Il a fini par y renoncer.
Ils finissent par y renoncer. Donc là, aujourd'hui, on nous explique que le texte devrait arriver en début d'année. Ce serait le premier texte étudié en janvier par le Conseil des ministres. Donc nous verrons bien comment, en termes de méthode, ce gouvernement souhaite s'y prendre. Mais on voit bien que ce n'est pas la mode macronienne de s'appuyer sur le dialogue social pour essayer de réformer ce pays.
Si Emmanuel Macron persiste dans sa volonté de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, vous espérez une forte mobilisation de toute la société française contre ce projet ? Vous avez le sentiment qu'il y a un seuil au-delà duquel les Français ne pourront pas accepter une réforme ?
Mais c'est même pas une question de seuil. Déjà, la première chose, c'est la philosophie. Et même celui qui a inspiré le programme économique d'Emmanuel Macron, Philippe Aguillon, juge que la réforme est inutile et inefficace, voire même injuste. Faut qu'on se parle clairement de ces choses, de cet âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui sont qualifiés, qui rentrent sur le marché de l'emploi de manière très tardive et qui, pour un bon nombre d'entre eux, bossent au-delà des 65 ans. Vous en croisez dans votre vie, j'en croise dans la mienne. Donc, mettre un âge minimum de départ à 65 ans, ça ne les affecte pas, eux. Par contre, les travailleurs les moins qualifiés, qui rentrent tôt sur le marché de l'emploi et qui, par la pénibilité souvent de leur travail, ont une durée de vie qui est inférieure aux plus qualifiés, dès lors que vous allez passer à 65 ans, c'est eux que vous allez pénaliser en les faisant travailler beaucoup plus longtemps. Donc les 8 milliards dont nous parle ce gouvernement sur cette réforme des retraites, elles se font sur le dos de ceux qui pourraient partir plus tôt en retraite et qui, je vous le disais à l'instant, ont cette espérance de vie qui est la plus faible. Après, ça, c'est pour la mécanique telle que c'est présenté. Moi, j'espère effectivement que si le gouvernement s'obstine, il y aura une mobilisation importante dans ce pays pour pouvoir le faire reculer. Il faut voir les conditions de vie de nos concitoyens qui sont caissiers ou caissières, qui sont soignants, qui travaillent dans le monde agricole, qui travaillent sur des chantiers. Regardez le train de vie qui est leur et allez leur expliquer que ça sera 65 ans prochainement. Et après, et je terminerai par là, c'est aussi une question de projet de société. Moi, je suis assez basique sur ce plan-là. Une société qui va bien, c'est quand les enfants vivent mieux que leurs parents. C'est quand les enfants vivent mieux que leurs parents. Et donc, la réduction du temps de travail et la réduction de l'âge de départ à la retraite, ça doit contribuer à rendre meilleure cette société.
Pour terminer, j'aimerais revenir sur la marche de dimanche avec les représentants de tous les partis de gauche. Est-ce que cette marche est une étape importante dans la stratégie d'union voulue par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure ? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'il y aura un accord de la NUPES au conseil départemental de Seine-Saint-Denis ? Est-ce que ça pourra déboucher sur un accord électoral pour les élections européennes ? Ça pourrait se passer aussi au sein de la région Île-de-France ?
Mais la gauche n'a pas d'autre choix que de se parler. Regardons bien ce qui se passe dans ce pays. Au cours des 20 dernières années, sur 3 élections présidentielles, le Rassemblement national, avant le Front national, s'est qualifié au second tour de ces élections. Jamais le discours xénophobe, nauséabond que porte cette organisation politique n'a été aussi présent et n'a réalisé de scores aussi importants. La gauche, systématiquement, est exclue pour la présidentielle des second tours contre l'extrême droite. Donc si, face à ce péril qui menace aujourd'hui le pays, la gauche n'est pas capable de se parler. Et si on n'est pas capable d'en terminer avec cette théorie des gauches irréconciliables, effectivement, on livrera en 2027 le pays à l'extrême droite. C'est pas ce que je souhaite. Donc, on est en 2022, on est en fin d'année 2022. Il va falloir qu'on arrive à créer les perspectives pour la suite. Les perspectives pour la suite, elles doivent passer toujours par du débat et de la confrontation. On n'est pas similaire. Le rassemblement de la gauche, c'est pas la gémellité. On n'est pas identiques les uns avec les autres, mais on doit pouvoir se parler et débattre. Ça doit passer par des accords électoraux, ce qu'on a fait dans le cadre des élections législatives, ce qu'il faudra réussir à reproduire. Moi, j'ai pas de difficulté à dire qu'on peut se parler, y compris de la perspective des élections européennes. Parlons-en, mettons-nous d'accord sur le fond et voyons les sujets sur lesquels nous devons avoir les uns et les autres notre propre singularité. Mais à gauche, je n'ai pas d'ennemis. À gauche, nous ne devons pas avoir d'ennemis. Donc tout ce que vous m'avez proposé comme chemin, que ce soit du local au national, j'y suis parfaitement favorable.
Merci Mathieu Monod. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, premier adjoint au maire de Pantin et premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir et merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.